BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Cette semaine, on sera avec Florence Bélisson, la directrice de la création de Publicis Luxe, nouvelle agence issue du rapprochement entre Publicis 133 et Razorfish France. On s'intéressera aussi à la publicité digitale et plus spécifiquement à ce format qu'on appelle publicité native. On en parlera avec Aurélie Gritin, directrice marketing B2B de Verizon Media, et Yann Blas, directeur général France et Belgique de The Trade Desk. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Philippe Sauveplan, c'est le vice-président de l'Ordre des experts comptables. Hebdo.com, ça commence tout de suite, comme chaque semaine, avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, cette semaine, vous nous parlez du retour de la marmotte Milka pour une pâte à tartiner. Mais bien sûr.
Qui ne se souvient pas de cette réplique devenue culte? Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Cette réplique prononcée par un randonneur ébahi dans un supermarché après avoir découvert la fabrique Milka dirigée par des animaux des Alpes. C'était en 1999. 20 ans plus tard, Milka reproduit quasiment la même publicité à la montagne avec l'agence Buzzman. Même chalet, même chien, même vache. Et à la fin, le même supermarché. Sauf qu'à la place du randonneur, et bien cette fois-ci, c'est la marmotte qui raconte la scène qu'elle a observée par la fenêtre.
Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Et bien sûr.
Pâte à Milka, la pâte à tartiner par Milka.
Mais bien sûr.
C'est pas souvent ça, Frédéric, qu'on voit des retours de mascottes comme ça plusieurs années après. Moi, je pense à la grand-mère de Lustucru, peut-être.
Oui, mais... c'est vrai que c'est pas hyper courant, mais c'est un bon moyen de réancrer la marque dans son histoire, dans son ADN, comme disent les marketeurs, et c'est plutôt réussi cette fois-ci.
C'est très réussi. Allez, à l'occasion de la reprise du championnat de France, la Ligue 1 Conforama lance une nouvelle campagne, Marie.
La Ligue de football professionnel dévoile 2 spots publicitaires à la télévision. L'objectif, c'est d'accroître l'intérêt des fans en France, mais aussi à l'international. Les petits films mettent donc en lumière les champions du monde 2018 qui ont évolué au sein de la Ligue, ou encore les joueurs étrangers qui l'ont rejoint.
Le premier but, il marque une vie. Le premier duel, il est déjà crucial. La première intention, c'est souvent un coup de génie. Le premier club, on lui doit beaucoup. Le premier titre, on ne l'oublie jamais.
Et la campagne est signée par l'agence La Fourmi.
Et puis Pepsi qui reproduit le scénario de rencontre du troisième type dans sa dernière publicité, Marie.
Pepsi se lance dans la science-fiction. Un ovni se pose sur la Terre où les humains paniquent, le tout sur une musique qui accentue le suspense. C'est l'acteur William H. Macy qui décide d'aller voir de plus près. Il approche un Pepsi à la main, donc cet objet non identifié, et découvre une sorte de monstre robotisé dans laquelle est en fait caché un petit monstre un peu plus petit et tout à fait mignon qui repart aussitôt avoir eu son soda Pepsi. La campagne est orchestrée par Goodbye Silverstein and Partners.
Et puis Chanel nous dévoile une nouvelle campagne avec l'héroïne de 10% Camille Cotin. Campagne plutôt décalée, Marie.
C'est une campagne d'un nouveau genre pour la marque de luxe. Chanel nous propose 2 mini-films sur les réseaux sociaux pour mettre en avant sa montre J12. L'égérie Camille Cotin joue une parisienne pressée plutôt drôle qui n'hésite pas à sauter dans la scène de peur de rater son bateau taxi. Son petit ami est en retard, mais il n'aura qu'à la rejoindre en trottinette électrique, c'est ce qu'elle raconte donc au chauffeur. Dans une autre scène, on la voit courir pour aller au cinéma. Ils sont très en retard, au point que Camille Cotin oublie littéralement de tenir la porte à son petit ami de peur de rater la séance. Il se prend donc cette porte dans la pleine figure et l'agence est orchestrée par BETC Étoile Rouge.
Et c'est original ça, Frédéric, une agence qui joue pour une marque de luxe sur la carte de l'humour.
Oui, c'est plutôt rare, mais en même temps, aujourd'hui, les marques de luxe cherchent à toucher les fameux millennials. Alors, il faut un petit peu sortir des codes traditionnels et un peu en peser qui plaisent plutôt aux plus âgés, on va dire ça comme ça.
Et ben, on va continuer à en parler dans un instant avec notre invité de la semaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Florence Bélisson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la création de Publicis Luxe. Alors, Publicis Luxe, c'est pas facile à dire. Nouvelle agence issue de la fusion entre Publicis 133 et Razorfish France. D'abord, pourquoi est-ce que chez Publicis, on a souhaité rapprocher ces deux agences?
Alors, elle a été rapprochée à l'initiative d'un client.
Ah ouais?
Oui. La réelle histoire de cette fusion, c'est qu'un client a été face à sa transformation digitale et donc a moins travaillé en silo et a demandé à Publicis de réfléchir à une offre qui permet d'avoir une approche totalement intégrée de l'ensemble du travail qu'ils ont à faire en communication. Donc c'est assez conséquent parce qu'il s'agit autant de lancement de campagne que de définir un calendrier always on pour les réseaux sociaux, de travailler sur leur site et de réfléchir à un parcours utilisateur qui soit extrêmement seamless et cohérent et pertinent. Et donc, ni Razorfish, ni 133 n'avaient ni l'expertise, ni la capacité de travailler sur l'ensemble de ces assets et de cette réflexion. Et une équipe a été montée, donc ça a été le poisson pilote, je dirais, de cette fusion, et a rassemblé les experts de chacune des deux agences pour répondre à leur demande. Et ça a changé un modèle, ça a donné une nouvelle façon de travailler, de produire et surtout, moi j'ai pas été là tout au début, mais je vois que certains talents se sont gonflés de talent d'un autre parce que avec la WebD qui travaille sur des wireframes et sur un support e-commerce avec un rapport avec un AD qui travaille sur du print, et ben finalement ils se complètent, ils se parlent, et je pense que c'est aussi la beauté de cette fusion, c'est l'interaction qu'il y a entre des experts qui sont très très pointus dans leur domaine, mais qui du coup le partagent, le transmettent et chacun apprend.
Frédéric.
Ça veut dire que Luxe, qui est quand même dont, en tout cas, on a une image d'un secteur traditionnel. Le luxe, c'est aussi la répétition de l'histoire et tout. Le luxe, maintenant, c'est obligatoirement digital et c'est obligatoirement millennials.
Digital, c'est évident que le digital...
Qui n'est pas partie. Digital aujourd'hui, Frédéric.
Voilà. C'est vrai.
C'est ça, c'est-à-dire que le digital est... Je dirais pas qu'il est au cœur de la réflexion, mais il fait partie d'une ouais. pensée globale sur un parcours utilisateur. Ouais. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients à écrire l'expérience qu'ils visent à faire vivre aux potentiels consommateurs et aux consommateurs qu'ils ont déjà. Et ça veut dire avoir un relais sur le retail, de penser à ce qui se passe en magasin, de se penser à ce qui se passe quand je vais recevoir un colis chez moi, bah, comment est-ce qu'on peut upgrader cette expérience. Et le digital est un canal, un relais, mais faire du bien aux marques et tisser un lien avec les consommateurs, ça veut dire penser l'ensemble du parcours utilisateur. Et je dirais que c'est notre envie et notre angle de travail avec les partenaires, enfin les clients qu'on a aujourd'hui et ceux qu'on aimerait gagner.
Justement, à propos de clients, souvent les clients du luxe, c'est des gros budgets. Est-ce que ça permet d'être plus créatif que, par exemple, si vous aviez affaire à des clients qui font, je sais pas moi, de la lessive ou de la choucroute?
Alors, je sais pas comment répondre à cette question.
C'est la lessive et la choucroute qui peuvent faire. Ça vous a perturbé.
Non, mais je pense que... Enfin, moi, j'ai toujours appréhendé mon métier en me disant j'ai peu d'argent ou j'ai beaucoup d'argent, je vais essayer d'être pertinent.
Ouais.
Aujourd'hui, la difficulté qu'on a par rapport à des budgets, c'est que les assets se multiplient. Parce que aujourd'hui, on a des clients qui doivent concevoir et penser des contenus dédiés pour des retailers, peut-être sur un sujet finalement différent. Au regard des différents personas qu'ils ont identifiés, se dire, ah ben voilà, je vais pas parler de la même façon avec une beauty addict qu'avec la skincare addict, par exemple, si on parle d'une marque de beauté. Donc, les assets se multiplient. Et pour rebondir sur votre question, quand on est luxe, on se doit d'offrir une expérience mémorable. Donc, on se doit en production que un post à faire avec un pack shot sur Instagram ou que j'ai un film d'un lancement d'un nouveau féminin ou d'une nouvelle collection. Je me dois, avec les moyens que j'ai et sur l'un et sur l'autre, d'avoir une expertise, un œil, une façon de
zéro défaut
des talents. C'est notre ambition.
Vous avez fait un passage chez l'annonceur de luxe chez Hermès.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a apporté après votre retour aujourd'hui dans la pub?
Ce que ça m'a apporté, c'est de mieux connaître finalement les clients que j'ai en face de moi, parce que j'étais en relation de travail avec ces gens-là au quotidien.
Ouais.
Donc je dirais que je comprends peut-être pas mieux leurs problèmes, mais je sais par exemple la difficulté que c'est de tenir une filiale, de travailler avec elle, de devoir comprendre leurs insights, leurs besoins, et d'avoir l'extrême exigence de se dire, ok, moi je construis cette marque-là, j'ai envie de cette tonalité-là, et c'est pas parce que là, j'ai une filiale qui a plein d'argent qui veut faire autre chose, je dévie de ça. Donc je pense que ce que ça m'a apporté pas de l'empathie, mais de la compréhension d'une problématique client, parce que voilà, j'en ai pu en voir une plus large vision. Ça, essentiellement. Après, ça m'a appris à voir l'argent autrement. C'est-à-dire que c'est pas vrai que chez l'annonceur, il y a beaucoup d'argent.
Ouais.
Et donc, du coup, j'ai été amenée à produire beaucoup de choses avec des moyens où parfois en agence, j'aurais peut-être pas dire ça, mais l'agence se dit on n'a pas assez d'argent, mais si, on a ouais. beaucoup d'argent. Donc, c'est tout ça que ça m'a apporté. Et puis, ce que ça m'a apporté, c'est quand on est dans une maison, il y a une tonalité. Et une cohérence qui s'écrit de fait. Et donc, du coup, j'ai pu voir comment elle peut s'incarner visuellement, au travers d'événements, au travers de l'édition, etc. Et j'essaye d'appliquer ça avec les clients que j'ai qui sont en quête de cohérence. Mmh. Parce que on a des clients internationaux, on a des clients qui sont très gros. Et je pense que l'enjeu majeur, c'est de rester la même marque, que je sois jusqu'où à émerger dans certains marchés, parce que voilà, c'est le moment d'aller au Brésil, etc. Mais voilà, quelles guidelines, quelle tonalité, quel message j'ai toujours envie de porter en tant que marque. Et ça, je dirais que ça m'a apporté ça.
Merci beaucoup, Florence Bellisson. Je rappelle que vous êtes directrice de la création de Publicis Luxe.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors on va se revenir avec vous sur une décision marketing qui fait débat autour de cette table. Ça concerne Mastercard. Le groupe va faire disparaître son nom de son logo et de ses campagnes de pub. Expliquez-nous ça.
Oui, un simple rond rouge et rond jaune entremêlés. Voilà à quoi va ressembler le logo Mastercard. Sans aucune autre mention, le nom de la marque qui apparaissait jusque-là juste en dessous de ce symbole, sera amputé. Le nouveau logo sera posé sur toutes les cartes bancaires, tous les supports de communication du groupe, comme les publicités évidemment, mais aussi les maillots de sportifs. Alors la décision n'a pas été prise à la légère, vous vous en doutez. Pendant près de 2 ans, Mastercard a mené des études partout dans le monde pour s'assurer de rester identifiable de cette façon. Il faut faire attention à ne pas être arrogant et dire « je suis iconique, je laisse tomber le nom de ma marque », explique le directeur marketing de Mastercard dans le Wall Street Journal. Et selon lui, bien ses études ont permis de confirmer que la marque était assez puissante pour rejoindre ce club très fermé des entreprises qui peuvent se contenter d'un simple logo comme la pomme d'Apple ou évidemment la virgule de Nike. En effet, plus de 80% des gens reconnaissent spontanément le logo Mastercard dans l'absence du nom. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est ce qu'on
a fait cette étude. Moi, je ne suis pas sûr de l'histoire, mais donc si je comprends bien, il y a un enjeu de prestige. Il n'y a pas que ça, quand même.
Oui, ce n'est pas qu'une question de prestige, d'autant que c'est un vrai risque de faire ce choix. Mais pour Mastercard, il y a bien des enjeux qui répondent à des questions business dans son secteur. En effet, l'abandon du nom Mastercard permet de laisser de côté un peu le mot carte associé à l'activité historique du groupe dans les cartes de crédit, alors que l'avenir de l'entreprise se trouve dans la digitalisation des moyens de paiement où il n'y a plus de cartes physiques.
Ouais.
Le nouveau logo aura aussi un autre avantage très concret, il prendra moins de place et sera donc plus percutant selon le groupe sur de petits écrans comme ceux des smartphones ou des montres connectées. Alors vous allez voir apparaître ce nouveau logo assez rapidement sur les cartes de crédit Mastercard dès que les banques auront écoulé leur stock existant. Une petite nuance, l'entreprise précise qu'elle pourra éventuellement continuer à utiliser son ancienne signature dans certains marchés, notamment en développement où la marque n'est pas encore suffisamment connue.
Ouais, Frédéric, je vous sens sceptique. Moi aussi, je suis sceptique. Je me disais, est-ce qu'un renaming, un rebranding, juste par exemple, laisser tomber le mot card et garder que master, ça aurait pas été plus, je sais pas.
Ouais, c'est risqué. Hein. Ils disent que ça fait des décennies qu'ils travaillent sur ce logo, sur ce nom. Que bon, voilà, à voir. Hein. On verra ce que ça donne.
On verra ce que ça donne. Mais vous dites quoi? 80% des gens reconnaissent spontanément le logo.
Oui. Et sachant que le logo Mastercard, au début, il y avait encore écrit Mastercard sur les deux logos.
Ouais.
Et ils avaient déjà changé de logo en 2016, oui, je crois, en mettant le nom en dessous. Donc ça s'est quand même fait un peu par étapes de retirer le nom du visuel.
Bon, on va s'habituer alors, Frédéric.
On verra.
Merci, Simon Tenenbaum.
Merci.
BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le zoom du jour autour de la publicité digitale, des enjeux de 2019 et de la publicité native en particulier. Nous sommes aujourd'hui avec Aurélie Gritin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing B2B de Verizon Media qui regroupe les marques Yahoo et AOL, et Yann Pla. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général France et Belgique de The Trade Desk, spécialiste justement de toutes ces questions de publicité digitale. Alors, ce qui m'a interpellée cette semaine, Aurélie Gritin, c'est une étude que vous avez publiée. La publicité native est 8 fois plus efficace que la pub classique. Et je me suis dit, finalement, est-ce que tout le monde est bien au clair avec cette histoire de publicité native? Moi, j'ai fait un petit tour dans mon open space. Et ben, en fait, personne ne sait ce que c'est. Alors, expliquez-nous.
Alors, je suis effectivement assez d'accord. Native advertising, c'est un petit peu compliqué, ou publicité native. La publicité native, c'est, s'il fallait être schématique, c'est de la publicité qui ne ressemble pas à de la publicité. Pour autant, je m'entends, elle est signalée comme telle, mais c'est une publicité qui propose la même expérience pour un utilisateur qu'un article éditorial. Donc, je vais prendre l'exemple de Yahoo. Vous allez sur la page d'accueil de Yahoo, vous avez un module à la une, puis vous avez un flux d'articles, ouais, que vous consultez. Et au sein de ces articles s'intercalent des annonces. Donc, toutes les 3 articles, vous avez une annonce publicitaire avec un titre, un descriptif, une image, voire même une vidéo. Et c'est, en fait, c'est ça qu'on appelle une publicité native. Native parce qu'elle se fonde dans le contenu.
C'est un petit truc qu'on voit sponsorisé là en dessous, c'est
exactement. C'est un peu aussi une réponse au sapin de Noël dont on se souvient peut-être avoir vu sur certains sites avec des pop-up, du son qui se déclenche, ouais, qui a un peu généré un mécontentement. On arrive à des taux de d'adblock de l'ordre de 50% sur des populations plus jeunes. Donc il a fallu se remettre en question. Il a fallu revoir la façon dont on proposait de la publicité, et notamment sur le mobile. Puisque la publicité native, c'est aussi une très bonne réponse à la publicité sur le mobile, puisqu'elle s'insère là aussi dans le contenu, et c'est aussi la publicité du futur, parce que pour les annonceurs, puisqu'on a mené une étude avec Anders Analysis qui a montré que 52% des investissements publicitaires d'ici 2020 seraient faits en Europe sur le native advertising.
Frédéric. Donc, on peut dire que la publicité native, c'est un véhicule de brand content, pour faire simple. C'est quoi exactement la différence entre un brand content et une publicité native?
Alors, c'est pas forcément...
Question piège.
Alors, non, mais c'est pas forcément... vous pouvez expliquer une offre. C'est pas forcément aller créer un contenu spécifique. C'est... j'aime assez cet exemple de la publicité pour un véhicule électrique, par exemple. Finalement, on peut connaître des produits, donc on peut inciter à aller essayer chez un concessionnaire un produit, ou on peut aussi expliquer pourquoi on aurait intérêt, que ce soit pour la planète, mais aussi pour son porte-monnaie, à acheter un véhicule électrique. Donc, c'est aussi d'autres approches différentes d'un même sujet.
Yann Bla, vous qui êtes spécialiste de la pub digitale chez The Trade Desk, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est ce genre de format qui va monter là dans les années qui viennent?
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que donc The Trade Desk est une plateforme multicanale. Donc nous, on va adresser donc des messages publicitaires sur plusieurs canaux. Donc l'audio, le display, la vidéo, le mobile, la connected TV bientôt. Et le native, en fait, chez nous, n'est plus du tout ce qu'on appellerait un canal émergent. On était vraiment au niveau de l'adolescence. D'accord. La maturité va arriver. Et ce qu'on voit vraiment, c'est que, vous savez, les annonceurs ont besoin les marques ont besoin de se différencier. Donc dès qu'il y a un nouveau canal, tout le monde s'engouffre dedans. Et de plus en plus, on voit une montée du native, en fait, sur les deux dernières années, là, au même titre que la programmatique audio.
Et qu'est-ce qui fait alors que c'est mieux accepté? Parce qu'on se trouve quand même face à des populations qui, effectivement, ont l'impression de voir de la pub digitale tout le temps, partout, qui les dérange dans leur parcours. En quoi le fait que ce soit du native la rend plus acceptable?
Comme disait Aurélie, déjà le native est fondu dans un contexte, donc on a plus cette intrusion qu'on pouvait avoir quand il y a eu l'époque des pop-up, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
Voilà, donc on en est loin maintenant. Donc le native vient s'inscrire dans un contexte et donc a une corrélation avec la page éditoriale. Donc c'est ça aussi qui montre la puissance du native, avec des taux de viewability, donc des taux de visibilité du message qui sont très très au-dessus des standards.
Effectivement, pour moi, c'est vraiment le respect de l'utilisateur qui suscite aussi cet engouement. Et dans l'étude qu'on a menée auprès de 6000 personnes dans 3 pays, en Angleterre, en Allemagne et en France, on voit bien que quand une marque prend la parole en native advertising, on a plus 15% d'appréciation de cette marque qu'une publicité sensible. Classique, puisqu'on est aussi, on sait que cette publicité classique, pardon, a été un peu chahutée.
Et il y a un taux de transformation plus élevé après ou...
Oui, on observe aussi des taux, alors pas que des taux de clics qui sont des indicateurs, mais qui sont des chiffres qui sont nombreux, qui ramènent sur les sites des annonceurs notamment, mais on voit que la recommandation de la marque, les gens sont, il y a plus de 51% des gens, enfin il y a plus de 50% de chances que vous recommandiez une marque après avoir vu du native advertising que si vous ne l'aviez pas vu. Donc en fait, les gens vont aussi s'emparer de votre marque, probablement parce qu'ils ont passé plus de temps avec, ils ont pu consulter des contenus aussi, et ils ont plus de 20% de chances d'acheter la marque derrière.
Alors Yann Bla, vous avez évoqué l'audio tout à l'heure, c'est vrai que ça monte là avec tous les assistants vocaux. On a quand même aujourd'hui du mal, nous, à voir un petit peu à quoi va ressembler la pub sur ces appareils. Vous avez une idée ?
Ah bah ça c'est l'idée est déjà là en fait, puisque donc The Trade Desk a été un des premiers DSP à être connecté avec Spotify par exemple. Mm-hmm. Donc quand vous écoutez une playlist sur le mode gratuit, bon bah vous avez un certain nombre de publicités et les moteurs de recommandation de Spotify eux-mêmes vous proposent des musiques, ouais, pour lesquelles vous serez plus appétant. Mm-hmm. Donc du coup la publicité elle vient s'inscrire dans ce type de ciblage. Mais je voudrais ajouter que sur l'efficacité du native, ce qui est important c'est de le mettre en parité avec d'autres ingrédients, parce que quand on a un consommateur qui a donc son parcours tout au long de la journée, on va toucher son téléphone portable, on va aussi être devant l'ordinateur, on va être, ouais, avec son podcast, on va regarder la télé. Ouais. Donc en fin de compte, les annonceurs, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'il n'y a pas un canal qui est plus efficace que l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il faut, c'est faire
un
mix. Voilà, les agences, eux, leur travail des agences, c'est de faire du conseil sur ce qu'on appelle le mix média.
Merci beaucoup Yann Bla. Je rappelle que vous êtes directeur général France et Belgique de The Trade Desk, et Aurélie Gritin, directrice marketing B2B de Verizon Media.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Philippe Sauveplane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables en charge de la commission communication et attractivité. D'abord, moi j'aimerais que vous me parliez des experts comptables. Que fait cette profession aujourd'hui? Quel est leur rôle exactement?
Alors c'est une profession qui est effectivement mal connue. Elle existe pourtant depuis plus de 70 ans, puisque c'est une profession réglementée par une ordonnance de 1945. Nous sommes surtout connus des entreprises et de toutes les personnes qui bénéficient de nos prestations. Alors que font les experts comptables des entreprises? Ben, ils font du réglementaire, de la comptabilité, de la fiscalité, mais ils font beaucoup plus, ils font de l'accompagnement, ils font du partenariat avec le chef d'entreprise qu'ils accompagnent tout au long de la vie de l'entreprise. De la création à la transmission, à la gestion, bien sûr, etc. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense.
Donc, si vous faites beaucoup de conseils, j'imagine que vous avez dû être très sollicité là, par le prélèvement à la source, la mise en place, tout ça, non ?
Oui, nous avons été très sollicités. Vous l'avez sans doute remarqué. Nous avons fait une campagne assez visible et remarquée sur le conseil, et notamment sur le conseil qui compte. Hein. C'est le slogan, le conseil qui compte. On a illustré cette campagne à travers le prélèvement à la source, puisque c'était l'actualité, et que nos clients entreprises avaient vraiment besoin d'être assistés, d'être conseillés dans la mise en œuvre d'un dispositif qui est finalement quand même un petit peu complexe pour les employeurs. Assez simple pour les salariés dans la plupart des cas, mais souvent des situations un petit peu plus délicates qu'il faut que l'expert comptable examine de près.
Alors j'imagine que votre cible, c'est plutôt les entreprises. Est-ce qu'il y a quelques particuliers qui peuvent aussi faire appel à des services d'experts comptables ?
Bien sûr. Alors nous sommes connus effectivement par les entreprises, mais nous sommes connus aussi par tout l'environnement associatif, l'environnement secteur public, mm-hmm, et les particuliers. Nous faisons beaucoup de déclarations de revenus, des déclarations d'ISF versus IFI, oui, et tout un tas de déclarations d'accompagnement des particuliers. Nous avons également des missions de au titre de la gestion du patrimoine. Nous accompagnons nos clients, nos dirigeants d'entreprise dans leur démarche personnelle patrimoniale. Nous essayons d'être le plus proche possible de nos clients et des dirigeants d'entreprise ou d'associations ou autres, et de leur apporter tous les services dont ils ont besoin.
Alors vous avez évoqué cette campagne autour du conseil. Comment est-ce qu'elle va se décliner en 2019? Vous allez la poursuivre, aller sur d'autres terrains?
Alors c'est une campagne qui a été prévue en 3 temps. Et donc le 2e temps va intervenir début mars. Nous allons focaliser probablement sur des thèmes plus concrets et plus qui vont davantage mettre en valeur l'ensemble des compétences des experts comptables vis-à-vis de leurs clients. Donc compétences dans tous les domaines, que ce soit dans les secteurs ou dans les domaines. Et nous serons probablement sur le thème de la transmission d'entreprise à la base.
Important.
Qui est un thème très important, comme vous le savez, et comme effectivement la génération du papy boom, mais pas que, le nécessite.
Merci beaucoup Philippe Sauflane. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.